Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient. Ce matin, nous parlerons de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, acquitté en début d'année des crimes contre l'humanité dont il était accusé. Depuis, vous le savez, il est libre, mais assigné à résidence à Bruxelles en attendant un éventuel procès en appel. Autrement dit, Laurent Gbagbo ne peut pas quitter la capitale belge sans le feu vert de la Cour pénale internationale. Des conditions dénoncées par ses avocats qui reprochent aux juges d'empêcher leurs clients de participer à la vie publique de son pays, de jouer un rôle dans la réconciliation et, le cas échéant, d'être candidat à la présidentielle de l'année prochaine. Ses avocats demandent donc sa mise en liberté immédiate et sans condition. Vos réactions, évidemment, nous intéressent. Dites-nous si Laurent Gbagbo doit rentrer dans son pays avant même la fin de la procédure d'appel de la CPI. 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à poster vos commentaires soit sur le compte WhatsApp de l'émission, soit sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, vous le savez, à cette heure-ci, c'est votre rendez-vous privilégié, votre rendez-vous interactif avec la rédaction de RFI. 20 minutes pour répondre à toutes vos questions, pour mieux comprendre l'actualité. Albert nous a contacté de Cotonou, au Bénin. Bonjour Albert.
Bonjour Juan.
Bienvenue, merci de nous écouter tous les matins. Vous avez des questions sur les déboires judiciaires de l'ancien Premier ministre français, Édouard Balladur.
Oui, justement Juan, dans l'affaire Karachi... La Cour de justice de la République a décidé de juger l'ancien Premier ministre Édouard Balladur et son ministre de la Défense François Léotard pour complicité d'abus de biens sociaux.
Oui.
Pour ça, j'ai deux questions à poser. La première est de savoir ce qui est reproché exactement à ces deux hommes. Et la deuxième, dans le premier volet, ce qui explique un renvoi de cette affaire 24 ans après les faits.
Ah oui. Effectivement. Alors Pierre-Olivier est à mes côtés, bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour Juan, bonjour Albert.
Journaliste au service France de RFI, vous étiez justement à l'ouverture du procès Karachi lundi au tribunal correctionnel de Paris. Peut-être d'abord, faut-il rappeler en quelques mots cette affaire tentaculaire.
Oui, alors tout commence le 8 mai 2002 dans la ville de Karachi, c'est au Pakistan. Une voiture piégée explose et tue 14 personnes, dont 11 Français, des salariés des chantiers de construction navale de Cherbourg. Ces Français étaient sur place pour assembler des sous-marins vendus au Pakistan par la France. Alors d'abord, bien sûr, après cette attaque à la voiture piégée, la justice s'intéresse à la piste terroriste. Mais depuis 2009, les juges privilégient la thèse du règlement de compte sur fond de scandales politico-financiers.
Et là, Pierre-Olivier, on fait un saut dans le temps, 8 ans en arrière.
Oui, absolument, car en creusant un petit peu, les juges s'aperçoivent que l'attentat de Karachi de 2002 serait en fait lié à une affaire qui remonte à 1994. Le gouvernement d'Édouard Balladur veut alors vendre des sous-marins au Pakistan. Et dans ces années-là, pour s'assurer un contrat particulièrement juteux, il est courant de verser des commissions à des responsables locaux pour faciliter les négociations. C'est ce qu'on appelle couramment des pots de vin. Mais à l'époque, la pratique est tout à fait légale.
Et c'est là qu'entre en jeu Édouard Balladur et François Léotard.
Et oui, car le Premier ministre Édouard Balladur et celui qui est son ministre de la Défense, François Léotard, auraient alors désigné deux intermédiaires pour verser ces fameuses commissions, ces pots de vin aux décideurs pakistanais. Jusqu'ici, rien d'illégal. Mais voilà, la justice soupçonne les intermédiaires en question, dont l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, d'avoir fait revenir en France, de manière occulte, une partie de l'argent qui leur avait été versé pour s'assurer les fameux contrats des sous-marins. Et cet argent, eh bien, c'est ce que l'on appelle des rétrocommissions. Au total, ces rétrocommissions sont estimées à près de 13 millions de francs, c'est-à-dire 2 millions d'euros. Et ces sommes auraient pu servir en partie à financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Alors, pour répondre Clairement, à votre question, Albert, eh bien, Édouard Balladur et François Léotard sont soupçonnés d'être impliqués dans un système de rétrocommission illégale sur des ventes de sous-marins au Pakistan pour financer une campagne présidentielle.
Et pour boucler la boucle, Pierre, comment ces rétrocommissions sont-elles liées à l'attentat de Karachi en 2002 ?
Eh bien, car c'est finalement Jacques Chirac qui sera réélu en 1995 et il décidera de mettre fin à ce système de rétrocommission. Et on pourrait imaginer que l'attentat de Karachi pourrait avoir été perpétré, eh bien, pour punir la France d'avoir arrêté soudainement ces généreux dons d'argent aux responsables locaux.
Alors Albert nous demandait comment expliquer que la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ordonne le renvoi devant cette cour d'Édouard Balladur et François Léotard maintenant, 24 ans après les faits.
Eh bien car on imagine cette affaire qui a peut-être conduit à un attentat contre des Français et qui est liée au financement d'une campagne présidentielle a bien sûr été largement dissimulée par les intéressés qui étaient alors au plus haut sommet de l'État et il était donc très difficile est très long pour la justice de remonter les pistes, de rassembler les pièces à conviction. À titre d'exemple, une des porte-paroles des victimes que j'ai rencontrées au procès lundi m'expliquait que les agendas d'Édouard Balladur entre 1993 et 1995, des agendas qui auraient pu éclairer la justice, eh bien, ils ont tous mystérieusement disparu. Alors voilà, tout semble donc avoir été fait pour ne pas exposer certains responsables politiques et rendre le travail de la justice extrêmement compliqué. Et puis enfin, pas de nouveaux éléments dans le dossier pour l'instant. Impossible en tout cas d'avoir accès au dossier soumis à l'instruction. Mais sachez qu'Édouard Balladur, qui a été entendu à plusieurs reprises, s'est à chaque fois défaussé sur ses collaborateurs de l'époque. Et ce sont d'ailleurs eux qui sont actuellement jugés au tribunal correctionnel.
Oui, Édouard Balladur et François Léotard, eux seront jugés devant la Cour de justice de la République. C'est cette cour qui est habilitée à juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Donc finalement, les deux principaux intéressés ne seront pas face à leurs victimes.
Ne seront jamais confrontés aux victimes au tribunal correctionnel. Et c'est d'ailleurs ce que regrettent certaines des victimes à qui j'ai parlé.
Albert, a-t-on répondu à vos questions ?
Tout à fait. Merci beaucoup et bonne journée.
Bonne journée à vous à Cotonou. Merci Pierre-Olivier du service France de RFI. 10h17 à Paris. Vos questions 33 9 693 693 70. Vous pouvez évidemment nous envoyer vos questions sur la page Facebook de l'émission. Et n'oubliez pas en message privé de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler. Car le principe de cette émission est de vous entendre sur l'antenne de RFI, de vous donner la parole. Soyez le bienvenu Joachim. Bonjour.
Oui, bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Quelles sont vos questions ?
Oui, ma question est de savoir, la Palestine va toucher la somme de 400 millions d'euros en provenance d'Israël. Mais cette somme représente le transfert rétroactif des frais de douane. Comment expliquer que Mahmoud Abbas ait finalement accepté ces frais alors que dans un premier temps, il les avait refusés ?
Ouais. Effectivement.
La deuxième question...
Allez-y, posez-la, parce qu'il y a beaucoup de bruit derrière vous, Joachim.
Oui, oui. À quoi maintenant pourraient servir ces 400 millions d'euros ? C'est un peu ça.
Alors, pour vous répondre, nous avons contacté ce matin Guilhem Deltay, correspondant permanent de RFI à Jérusalem. Bonjour Guilhem.
Bonjour Juan, bonjour Joachim.
Alors c'est quasiment la fin d'un long bras de fer financier entre Israël et l'autorité palestinienne. Revenons peut-être tout d'abord sur l'origine de la dispute. D'où viennent ces frais de douane et pourquoi avaient-ils été bloqués ?
Alors pour comprendre l'origine de cette dispute, effectivement, il faut remonter à 1994, au lendemain des accords d'Oslo. Israël et les Palestiniens ont alors négocié puis signé ce qu'on appelle le protocole de Paris, qui porte sur les aspects financiers de leur relation entre donc l'État israélien et l'autorité palestinienne. Au terme de cet accord, eh bien c'était Israël qui, contrôlant les frontières, devait percevoir les frais de douane ainsi que certaines taxes d'importation au nom de l'autorité palestinienne et qui ensuite les reverse au gouvernement palestinien. Cette situation perdure jusqu'à aujourd'hui. Mais en février, eh bien, Israël a mis en place une nouvelle loi. Le gouvernement israélien estime en effet que les pensions versées par le gouvernement palestinien aux prisonniers et aux familles de ceux qui ont été tués par les forces israéliennes sont une incitation au terrorisme. Les Palestiniens voient ça comme une forme de protection sociale, eux, pour des familles qui ont payé, destine un tribut pour la lutte nationale. Il y a un consensus côté palestinien sur le fait que ces pensions doivent continuer d'être versées. Alors pour contraindre l'autorité palestinienne à abandonner ces paiements de pensions, Israël a décidé de prélever dans les frais de douane perçus au nom de l'autorité palestinienne la somme qu'elle estime revenir aux familles des détenus et des personnes tuées, environ 11 millions d'euros par mois. Pour les Palestiniens, cette décision israélienne est une violation du protocole de Paris. Israël n'est pas censé décider de l'affectation des fonds prélevés au nom de l'autorité palestinienne. Et ils ont donc, en geste de protestation, refusé de recevoir tout frais de douane prélevé par Israël.
Et cela a entraîné une crise financière importante dans les territoires palestiniens.
Alors oui, parce que ces frais de douane et ces taxes représentent près de 60% des recettes budgétaires de l'autorité palestinienne. C'est énorme. Depuis le mois de février, les salaires des fonctionnaires ont été réduits de près de moitié. Les dépenses de l'autorité ont été réduites aussi de 20%. Et le gouvernement palestinien a emprunté plus de 20 millions d'euros aux banques palestiniennes. Le déficit budgétaire de l'autorité palestinienne a augmenté assez largement au cours des derniers mois. Et le secteur bancaire a été fragilisé. Tant et si bien que le mois dernier, la Banque mondiale estimait dans un rapport que les perspectives pour les territoires palestiniens en 2020 sont inquiétantes. On était à deux doigts d'une crise bancaire et financière majeure, reconnaissait d'ailleurs à RFI un responsable palestinien. L'autorité palestinienne a donc accepté finalement le versement de 400 millions d'euros d'arriérés de frais de douane, vous le disiez. Elle avait déjà conclu avec Israël un accord fin août pour le versement de 510 millions d'euros. Mais cela ne représente pas l'ensemble des frais de douane prélevés par Israël au nom de l'autorité. Des comités ont donc été mis en place entre les deux gouvernements pour étudier les modalités de versement du reste des arriérés. D'autres versements devraient donc avoir lieu dans les prochains mois. Cela ressemble un petit peu à une marche arrière de la part de Mahmoud Abbas et du gouvernement palestinien. Eux s'en défendent car ils assurent qu'ils continueront de verser les pensions aux prisonniers et aux familles de personnes tuées, mais ils acceptent finalement de toucher des frais de douane amputés.
Ouais, Joachim voulait savoir également si l'on savait à quoi allaient servir ces 400 millions d'euros versés par Israël à l'autorité palestinienne.
Alors, avant tout, à rattraper le retard dans le versement des salaires des fonctionnaires, ils ne percevaient, je le disais, qu'à peine plus de la moitié de leur salaire depuis le mois de février. L'autorité palestinienne va aussi pouvoir s'acquitter de certaines factures en retard, car elle a aussi une dette auprès d'entreprises privées qui ont réalisé des travaux pour son compte et qui n'ont pas été réglés. Cela devrait permettre de mettre un petit peu plus d'argent en circulation pour soutenir la consommation et l'économie réelle. Et puis enfin, l'autorité palestinienne devrait tenter aussi de réduire sa dette auprès des banques nationales.
Joachim, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, vraiment, je suis satisfait.
Vous êtes satisfait, tant mieux. Et rappelez-nous quand vous le souhaitez, évidemment, on est ouvert tous les jours, 8h10, 8h30, tous les matins, en temps universel, on répond à vos questions. Merci Guilhem Delteil, correspondant permanent de RFI à Jérusalem. Avant de repasser au standard et d'accueillir Roméo, si vous nous écoutez à Niamey, sachez que nous serons très prochainement dans la capitale du Niger. Nous y serons les 21 et 22 octobre pour deux émissions en public et nous débattrons de la prochaine élection présidentielle, car pour la première fois depuis l'indépendance du pays, le Niger connaîtra une alternance démocratique, un président sortant qui passera le pouvoir à un successeur élu. Toute la question, évidemment, est de savoir si les conditions seront réunies pour une élection incontestable. Vous pourrez évidemment dialoguer avec mes invités. Et ensuite, nous profiterons de l'occasion pour dresser un état des lieux de la situation au Niger. On parlera de la situation économique, politique, sécuritaire, sociale. Vos témoignages, évidemment, nous intéressent. Donc, notez bien ces rendez-vous les lundis 21 et mardi 22 octobre. Appel sur l'actualité à Niamey au Centre culturel Oumarou Ganda. Ce sera à partir de 15h. Et sachez qu'à l'Infocast sera également du voyage. Vous pourrez évidemment assister aux enregistrements du débat africain. Bonjour Roméo.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Pas une semaine ne passe sans que des auditeurs nous appellent pour essayer de comprendre le Brexit et les relations tendues entre Londres et Bruxelles. Vous avez donc des questions, Roméo, sur le Brexit.
Alors, la semaine dernière, le Premier ministre britannique a présenté un nouveau plan à l'Union européenne pour éviter un Brexit sans accord.
Oui.
Alors ma première question, en quoi consiste le nouveau plan proposé par Boris Johnson ? Comment expliquer l'accueil mitigé de l'Union européenne ?
Ah, accueil mitigé, c'est peu de le dire. C'est vrai qu'il y a plusieurs points de ce plan de sortie proposé par le Premier ministre britannique qui pose problème. Pauline Schnapper, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de civilisation britannique contemporaine à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Quelles sont les propositions présentées la semaine dernière par Boris Johnson ?
Alors, Boris Johnson a fait des propositions qui étaient différentes de celles que Theresa May avait acceptées en fin 98. Le premier accord, donc celui qui n'a pas été signé, a été ratifié par le Parlement britannique, prévoyait que l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni dans son ensemble resteraient dans l'union douanière de l'Union européenne, donc, jusqu'à ce qu'un accord de libre-échange futur prenne le relais. Mmh. Et c'est ça qui n'était pas accepté par Boris Johnson et tous ses soutiens. Donc, ce que lui a proposé, c'est un système très compliqué, mais que je vais résumer en deux mots. C'était l'idée que l'Irlande du Nord resterait dans le marché commun, européen, mais pas dans l'union douanière. Rester dans le marché commun, ça veut dire qu'il continuerait à respecter les règles, la réglementation européenne, mais pas rester dans l'union douanière, ça veut dire qu'il faut quand même introduire, du coup, des contrôles aux frontières. Donc, l'idée de Johnson, c'était qu'il y aurait même un double système de contrôle. Un, de contrôle des marchandises à la frontière entre le nord et le sud de l'Irlande, mais dont il disait que ça pourrait se faire électroniquement, de loin, sans que ce soit à la frontière physique. Oui. Sans d'ailleurs expliquer comment ça pourrait se faire.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de frontière physique pour l'instant, aujourd'hui.
Ben non, c'est bien le problème.
Eh oui.
Et puis d'autre part, il y aura un deuxième type de contrôle, cette fois-ci dans la mer d'Irlande, puisque comme l'Irlande du Nord resterait dans le marché unique, il faudrait des contrôles sur les règles du marché unique entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord. Donc on passait à un système extrêmement compliqué. Et puis troisième aspect, proposé par Boris Johnson, il voulait donner un droit de veto à l'Assemblée d'Irlande du Nord, qui pour l'instant ne siège pas, d'ailleurs, sur ce système. Donc ça revenait à donner aux unionistes d'Irlande du Nord un droit de veto sur ce système. Et donc, pour en venir à la deuxième question posée par votre auditeur, pourquoi ce n'était pas acceptable par les Européens ? Eh bien, d'une part, parce que tout ce qu'on demande depuis le début, c'est qu'il n'y ait pas de réintroduction d'une frontière irlandaise, et ce système en introduirait même pas une, mais deux. Donc c'était évidemment pas acceptable par les Européens. Et que l'Assemblée d'Irlande du Nord puisse avoir un droit de veto, ça aussi, c'est pas acceptable pour les Européens, puisque le principe de ne pas réintroduire de frontières est intangible. Il ne peut pas dépendre du bon vouloir de tel ou tel acteur politique en Irlande du Nord.
Ouais, en tout cas,
donc, Boris Johnson savait très bien que les Européens ne pourraient pas accepter ce plan.
Et le calendrier est d'ailleurs très serré, puisque les Européens ont donné jusqu'à vendredi aux Britanniques pour modifier leurs propositions, afin d'éviter donc un no deal le 31 octobre. Il nous reste deux petites minutes. Vous aviez une autre question, Roméo.
Juan, Boris Johnson a affirmé qu'il ne demanderait pas le report, portant une loi l'oblige à demander un nouveau report.
Oui.
Que risque-t-il s'il passe en force ?
Ah, peut-il ignorer cette loi, Pauline Schnapper ? Cette loi adoptée le mois dernier, début septembre, par les députés.
Exactement. Il y a donc une loi qui le force à demander un report s'il n'arrive pas à trouver un accord d'ici le 19 octobre. En théorie, s'il ne respecte pas cette loi, il se met dans l'illégalité avec tout ce que ça suppose, y compris d'être traîné devant les tribunaux. Ah. La question, c'est de savoir s'il ne va pas essayer de trouver un moyen de contourner cette loi, c'est-à-dire de donner l'apparence de la suivre en envoyant effectivement une lettre de demande de report, mais qui serait annulée ou contournée par un autre système. Pour l'instant, on est dans l'attente, on se demande ce qu'il va pouvoir essayer d'inventer. S'il ne trouve pas de solution, il sera donc obligé de demander ce report, et dans ce cas-là, on peut imaginer que des élections auraient lieu très vite, en novembre ou en décembre.
En tout cas, lui n'en démord pas. Il dit que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 31 octobre, avec ou sans accord.
Il dit deux choses contradictoires. Exactement. Il dit deux choses contradictoires. Il dit d'une part qu'il va respecter la loi qui a été votée en septembre, et d'autre part qu'il sortira de toute façon le 31 octobre. Or, c'est l'un ou c'est l'autre, mais ça ne peut pas être les deux. Donc, on attend de voir comment il va résoudre cette contradiction.
Vous êtes optimiste sur un plan personnel, vous qui suivez de près l'actualité britannique, Pauline Schnapper ?
Sur quoi ?
Sur une issue d'ici la fin de la semaine, ou en tout cas au plus tard, juste après le sommet européen de la semaine prochaine. Donc,
je ne crois pas à cette issue à court terme. Donc je crois plutôt, et c'est ce qui semble se dégager en tout cas dans le débat public au Royaume-Uni, je crois plutôt à l'hypothèse d'un report et d'élections. Après, il reste à savoir si ces élections, si elles ont lieu, donneront une réponse claire.
Oui. Là aussi, c'est
l'électorat étant si divisé sur la question.
Le feuilleton, la saga Brexit est loin d'être terminée. Roméo, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci, je suis ravi de cette analyse.
Bah, c'est l'analyse Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique contemporaine à l'université Paris 3 Sorbonne. Nouvelle bonne journée à tous les deux. On va marquer une pause et retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on sera de retour tout de suite après pour parler de Laurent Gbagbo. Doit-il rentrer en Côte d'Ivoire avant la fin de la procédure d'appel de la CPI pour qu'il puisse participer à la campagne électorale et pourquoi pas être candidat l'année prochaine? On en parle dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.